on parlait du massacre à l'instant. J'ai trouvé, alors Caroline, arrête-moi si je raconte n'importe quoi. Il me semble quand même qu'une des plus belles scènes, une des plus belles réussites en termes de mise en scène vraiment dans la pièce, c'était cette scène du massacre où on n'a pas affaire à des corps, mais à des vêtements qui représentent les protestants, avec en même temps donc ce massacre généralisé. Tout d'un coup, le plateau entier est couvert de vêtements et avec cet éclairage, le projecteur qui ballotte et qui éclaire ça de manière un peu incertaine. Moi personnellement, ça m'a fait penser à cette ampoule qui est juste dans la partie haute du tableau du Guernica de Picasso, par exemple. L'espèce de lumière
très
comme
beau.
Ça.
Merci d'avoir fait le lien. Enfin, on l'a pas fait nous, mais merci beaucoup, c'est très beau.
Alors, je voulais savoir comment vous est venue cette très bonne idée de mise en scène.
C'est encore une idée qui est venue du binôme qu'on fait avec Pauline, puisque c'est Pauline qui a ramené principalement l'idée des vêtements, et c'est plutôt moi qui ai ramené l'idée du traitement lumineux de la scène.
Les vêtements manquent, disons clairement et franchement, qu'on s'inscrit dans une filiation esthétique d'un choc esthétique que j'ai eu en allant au Grand Palais, une exposition de Christian Boltanski, où il avait fait un énorme tas de vêtements de plusieurs mètres de hauteur, que surplombait une espèce de grosse pince géante qui, à chaque fois, venait prendre des vêtements pour ensuite les relâcher. Et ce qui, bien sûr, sans être didactique, faisait remuer beaucoup de choses chez la personne qui venait voir cette installation. Sur des images qu'on peut avoir en tête de la Shoah, des empilements de vêtements, des empilements de lunettes, de chaussures, où sont passés les corps. Et c'est quelque chose d'assez pudique et en même temps, qu'est-ce qui peut plus choquer que l'absence du mort et ce qui reste de lui. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et du coup, j'ai montré ces images à Mélissa, qui a également été très frappée par cette installation et par ces échos que pouvaient être faits. Et on a désiré s'inscrire dans cette filiation parce que, bon, déjà pour sa beauté esthétique et aussi parce que ça avait un écho historique avec la Saint-Barthélemy, qui est, on l'a appris au cours de nos lectures, le premier massacre où les victimes ont été déshabillées post-mortem, et ce sans motif particulier autre que la dégradation symbolique, puisqu'on ne les a pas violentées, on n'a pas volé leurs vêtements, puisque comme on l'a dit, les protestants étaient très austères et n'avaient pas des vêtements enviables, on va dire. D'où la scène du déshabillage du huguenot dans la forêt, qui explique rétrospectivement notre parti pris esthétique, qui du coup n'est pas seulement esthétique mais également historique, symbolique, enfin voilà, de plusieurs approches. Et du coup, le spectateur peut à ce moment-là comprendre que effectivement ce déshabillage explique et rétrospectivement ce qui a pu se passer avec tous les vêtements, avec tous les corps des protestants, et fait le lien entre tous ces vêtements et tous les gens qu'il a fallu déshabiller.
Pour la question de la lumière, en fait, Pauline avait déjà ramené l'esthétique, on va dire, des vêtements. Et parallèlement à ça, sur la scène de massacre, on avait des impératifs techniques un petit peu particuliers, parce qu'en fait, chez Marlowe, du massacre, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une, je veux pas me tromper, quatre petites scènes, très courtes scènes en fait, qui se résument vraiment à des échanges du type « Tiens, voilà un protestant, non, je t'en prie, ne me tue pas, laisse-moi prier, eh bien, prie plutôt avec ça, et c'est tout. » Enfin, qui fait très film d'action, voilà, et il y en a 3-4 comme ça qui se succèdent, et c'est tout ce qu'on a pour le massacre. Donc on savait comment on voulait les symboliser, c'est-à-dire avec les vêtements, mais on savait pas comment est-ce qu'on allait passer d'un plateau où il n'y a pas de vêtements et où tout va bien, à un plateau avec des vêtements et où c'est le bordel. Mon père étant régisseur, il avait déjà fabriqué des systèmes de projecteurs qui tombent, de lâchers de projecteurs, et j'avais trouvé ça assez frappant, et d'autant plus frappant que ça opérait sur le spectateur un saisissement physique en fait réel, et c'était quelque chose qui moi m'intéressait assez de reproduire en fait dans la séquence du massacre. Initialement, il y avait aussi une sonnerie, on s'était posé la question d'une sonnerie de type sonnerie d'alerte incendie ou de tir de DCA, des choses comme ça. Finalement, on est resté uniquement sur la lumière.
Ce que je trouvais très beau dans ton idée de lâcher de projecteur, c'est aussi que c'est visuellement la cloche qui sonne en fait, parce qu'il y a une cloche juste avant. Après, la cloche s'arrête et pour laisser place à ce projecteur qui se balance. Donc ça crée un raccord entre le son et...
Ouais, parce qu'en théorie, il est censé y avoir une cloche qui sonne pendant tout le massacre, et ça aurait été un petit peu longuet pour le spectateur. Déjà, on était content que ça se soit réalisé, parce que finalement, techniquement, c'était quand même pas gagné, on va dire, mais ça s'est fait, et donc on en était très fiers. Et c'est donc, du coup, ça nous permettait de traiter ce massacre comme ce qu'il est, en fait, dans la pièce de Marlowe, à savoir une transition, quoi. On passe d'une première étape politique vers une deuxième étape politique par ce massacre, mais finalement, le massacre n'est pas le cœur ou le plus important en termes de volume ou etc. de la pièce de Marlowe.
Donc du coup, c'était surprenant assez les spectateurs quand le titre est massacre justement. Enfin, certains spectateurs avec qui on a pu parler, quoi, de se dire en fait ça s'appelle massacre, mais le massacre dure très peu de temps et en fait c'est que de la politique, nous ont dit certains.
Et voilà, et donc du coup, nous, ça nous permettait de mettre en valeur ça et de changer aussi, enfin, d'opérer quelques petits changements de plateau. Parce qu'il y a des choses qu'il fallait qu'on installe, le plan incliné devait être installé, etc. Donc ça nous permettait d'avoir une micro-séquence qui nous permet de détruire un petit peu la scénographie qu'on avait juste avant et de la transformer. Ce qui fait que dès que la lumière va revenir, pouf, on a autre chose, mais on n'a pas eu un noir avec une musique d'attente pendant qu'on changeait le plateau, quoi, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est une image qui est née des choses que Pauline et que moi, on a ramenées et qui se sont...
Imbriqué.
C'est vrai que du coup, ça rendait très bien à la fois la violence de la chose, en particulier voilà, l'étudiant ramé quand vous l'avez remplacé par une veste au lieu de prendre un acteur, et quand il se fait dépouiller, c'est quand même une scène d'une extrême violence, tout en n'étant pas sanglante en même temps, ce que j'apprécie beaucoup.
Et, parce que Marie n'aime pas le sang.
Voilà. En même temps, une autre scène quand même qui était extrêmement violente, celle du protestant qui se fait déshabiller dans la forêt. Je pense, Caroline, que tu es d'accord avec moi là-dessus.
C'est atroce à regarder. Je me tortillais dans mon siège. Non, je ne veux pas regarder. Si, il faut que je regarde. Oh, je ne sais pas.
C'est typiquement typiquement, je ne sais rien. C'est le genre de scène. Enfin, on a appris que c'était le genre de scène qu'il fallait travailler avec beaucoup de confiance. Enfin, ça semble assez logique de la part entre les acteurs et entre eux déjà, et puis entre eux et avec nous. Mm-hmm. Et c'est une scène qui.
Pardon, parce que je rappelle quand même que Pauline et moi venons à la fin de la scène charger le corps de Pierre Damien.
Le corps nu, du coup.
Sur très bien, un chariot.
On ne voit rien.
Et oui, ça demande déjà une grande confiance et une confiance, on va dire, absolue, une écoute, mais aussi une confiance technique, c'est-à-dire d'être sûr qu'on va pouvoir le soulever sans lui faire mal, etc. Et du coup, en fait, c'était quelque chose qui nous a finalement un petit peu. Enfin, qui était une scène qui était un peu angoissante pour nous aussi, par moments, parce qu'on se disait, allez, on va rentrer sur le plateau, on ne sait pas dans quelle position il est mort ou comment il va être, comment est-ce qu'on va pouvoir le soulever, essayer de faire en sorte que le spectateur soit pas confronté nécessairement à la nudité de Pierre Damien. Du coup, c'était nous aussi, on en avait. J'avais bien l'impression avant que ça
et donc c'est une scène qui était originellement beaucoup plus longue parce qu'on a travaillé, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, beaucoup à partir d'improvisation. Et en fait, à force de travailler aussi une scène dans la confiance justement et dans le respect et de chacun, on en vient à polir façon vert poli la cruauté de la scène, l'impression que ça produit sur nous, et en fait finalement de la rendre très familière à nos yeux, et du coup d'atténuer la brutalité de la scène. Et ce qui a fait que quand on a eu des retours en fait extérieurs à la générale, ils nous ont dit que cette scène était assez insoutenable justement parce qu'elle était très très longue. Et du coup, on l'a réduite pour conserver l'image quand même, donc pas pour faire une concession particulière, mais pour conserver cette image tout en la réduisant parce que pour des questions de rythme en fait du spectacle.
Sachant que cette séquence-là, nous, il nous tenait à cœur pas uniquement d'opérer un déshabillage, comme disait Pauline tout à l'heure, qui soit un peu le symptôme de tous ces gens qu'on a déshabillés et dont on a juste les vêtements sur le plateau, mais c'était important pour nous en tant que séquence douche écossaise, qui est quand même une esthétique qu'on aime bien, quelque chose qu'on aime bien faire, à savoir cette séquence, elle commence par un truc drôle, elle commence par Guise qui débarque dans cette forêt où on lui a dit qu'il y aurait des centaines de protestants, et il n'y en a pas. Et il est tout seul. Et il est tout seul avec une lumière très très kitsch et des bruits d'oiseaux, si vous vous souvenez bien, qui font coucou, coucou.
Ça, c'est une transformation du texte de Marlowe. Je fais juste une minuscule incise en disant juste que, toujours dans l'idée de que les protestants sont très seuls. Voilà, et donc en fait.
Normalement, il y en a deux, trois.
Normalement, il y en a quelques-uns, mais en fait, il n'y a pas ce décalage énorme en fait. Guise dit je vais aller tuer les protestants dans la forêt, il arrive, il tue des protestants avec son armée en fait. Et donc là, l'idée vraiment de mettre Guise tout seul comme un espèce de fanatique illuminé qui est arrivé dans la forêt en pensant trouver une espèce de camp secret, et en fait il n'y a qu'un seul type qui est réfugié, et à la fois très drôle et en même temps hyper pathétique.
C'est quelque chose, nous en tout cas, ça nous importait de poser la scène comme tiens, ça va être une scène drôle, on va se marrer parce que le type débarque et en fait il n'y a personne, et voilà, et de transformer ça en scène vraiment affreuse, glaçante, en fait. Et voilà, glaçante, et c'était vraiment quelque chose qui nous importait. Ça venait aussi remettre certaines choses, certains blocs à leur place, parce que du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de traitements, enfin, dans la pièce de meurtres, etc., qui sont plutôt drôles, et donc du coup c'était important pour nous aussi de resituer que non, c'est un massacre, c'est pas toujours marrant, et qu'il y a une réalité, aussi bizarre que ça puisse paraître quand on fait du théâtre, mais il y a une réalité derrière ces choses-là, dont on a rigolé précédemment, quoi.
C'est peut-être le seul moment où on sent vraiment la mort. Enfin, on sent vraiment ce qui est en train de se passer au niveau de la mort. Parce qu'on la voit beaucoup à l'écran, on voit beaucoup donc les cadavres, on les voit à l'écran, on voit les vêtements. En fait, à chaque fois, on s'est suggéré. Et là, il y a ce truc de la première fois qu'on voit à partir de quand quelqu'un devient un cadavre. On a pas mal réfléchi à ça avec Mélissa, les improvisations avec Pierre Damien.
Ouais, c'est quelque chose qui nous intéressait. Et après, j'arrête sur le sujet. J'évoquais tout à l'heure on va dire la dynamique des scènes qui est toujours tu es un protestant, non, laisse-moi prier, prie avec ça. En fait, cette scène-là, on a fait le contraire, c'est-à-dire tu es un protestant, laisse-moi prier. La justification, la phrase de justification qui est toujours là chez Marlowe et qui tient à dire tu es un protestant, tu es, enfin voilà, c'est pas bien et je vais te tuer, arrive après qu'il l'ait tué. Ce qui était pour nous aussi un moyen de venir dire quelque chose sur la mécanique du meurtre, en fait, de montrer qu'à un moment donné, ça s'emballe, en fait. Ça devient tellement rapide qu'on en oublie quelles étapes on fait les unes après les autres, et où du coup, ça devient absolument normal de tuer quelqu'un avant de lui adresser une parole. Et du coup, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup, et on est assez ravis si cette scène est glaçante, même si, voilà, c'est peut-être pas forcément un bon moment à passer pour le spectateur, on est content que ça fonctionne.
Voilà, et pas seulement parce qu'il y avait un nu, donc il y avait un nu, mais pas seulement pour les canons de l'esthétique contemporaine. C'était quand même justifié, du coup.
Le fait qu'il ait un physique christique, c'est juste un bonus ou...
En fait, c'est le bonus Pierre Damien.
Oui, parce qu'il tombe un peu les bras en croix quand même. Donc...
Ça dépend des soirs, en fait.
Enfin, moi, je l'ai vu la dernière.
Ah, d'accord.
Ça dépend vraiment des soirs.
Il est très mince. Comme ça,
oui, c'est vrai. En fait,
le corps tout plié, tout posé.
En fait, il y a des gens qui nous ont dit qu'il ressemblait à un personnage du Caravage. Je pense que c'est juste le corps de Pierre Damien nous a aussi amené à le choisir en tant que Charles. Et parce qu'on aimait que Charles ait ce corps-là.
Et en tant que Huguenot aussi.
Et en tant que Huguenot aussi. Donc, son corps a été une donnée quand même dans notre choix. Et aussi la manière dont on l'a habillé en tant que Charles. On l'a habillé trop court, exprès, trop petit, etc. Et en fait, c'est vrai que pour le Huguenot, la façon. Enfin, il a quelque chose de très très touchant dans son, comment dire, dans son dénudement. Il a quelque chose de très fragile, et c'est vrai qu'à ce moment-là où il est mort, il est en fait dans une nudité du corps et de l'âme qui est assez touchante.
Je pense qu'il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte, mais peut-être je me trompe, c'est sa souplesse, en fait. Du coup, il est suffisamment souple pour se tenir dans des positions, une fois qu'il est en cadavre, qui sont assez déroutantes, parce que du coup il est tordu, en fait, comme pourrait l'être quelqu'un qui est mort. Par contre, après, c'est vrai que la position les bras en croix, c'est vraiment une donnée, ça dépend de comment
variable.
Le tue,
c'est
en
pas
fait,
comme ça qu'on
vraiment
l'a
variable.
D'accord.
Ouais. Dernière scène vraiment que je trouvais graphiquement très belle, la dernière, voilà, la scène du baptême de Navarre qui devient catholique à ce moment-là. Scène un peu curieuse au fond, puisque on pourrait penser, voilà, c'est quand même un événement avec une portée politique importante. Il va devenir roi de France, donc logiquement son baptême devrait se passer dans une grande cathédrale avec beaucoup de monde. Or sur scène, il est tout seul, l'éclairage est très particulier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus par rapport à ces choix de lumière, ce choix de scène tout simplement?
Alors en fait, il faut savoir que c'est une scène qui n'existait pas chez Marlowe. Chez Marlowe, la pièce se terminait avec Henri III qui disait à Navarre « Oh non Navarre, tu vas être au roi de France pour, !» Pour simplifier, pas tout à fait, mais c'est une phrase qui nous fait beaucoup rire. Et ça se terminait comme ça, et ça tombait un petit peu à plat. Et en fait, quand on a lu la version traduite par Pauline de la pièce, quand on l'a lu ensemble, moi je me suis un petit peu dit « C'est bizarre, enfin, on change de roi comme on change de chemise dans cette pièce, et là on va pas juste jusqu'au bout de la logique, qui est qu'on va passer à Navarre, qui va devenir Henri IV, lui qui pourtant a vu mourir tous ses amis protestants, on va dire, enfin tout son peuple, entre guillemets, enfin tous les gens de sa religion. C'était quelque chose qui moi, m'interrogeait vachement, cette idée de remplacement, de recouvrement permanent, voilà. C'était quelque chose qui m'agitait beaucoup, et en fait, j'ai proposé à Pauline, je lui ai dit, mais moi, je pense que ça serait peut-être pas mal de finir avec ce personnage de Navarre, qu'on met de force à genoux, qu'on baptise un peu de force. Enfin, on aimait bien garder cette ambiguïté aussi de est-ce que c'est un baptême souhaité ou pas ou quoi, et qui est un peu baptisé de force, et puis qui va se rhabiller, qui va être couronné, et la dernière image de fin juste avant le noir serait un espèce de moment où il va pour reprendre la parole pour un énième discours politique, proposer ça à Pauline. Donc on a laissé ça un peu reposer, et puis parallèlement à ça, un petit peu après, en fait, Pauline est arrivée avec ce morceau de musique de métronomie qui conclut le spectacle là, qui fait des espèces de bourdons un peu étranges, et en fait quand Pauline me l'a fait écouter, on s'est dit ok, bon, donc ça c'est la musique de la scène de fin, enfin. Du coup, la scène s'est mise à exister. Après, les lumières, c'est arrivé un peu plus tard.
Disons que les scènes... De toute façon, les scènes sont assez construites en couches successives. Mm-hmm. Enfin, tout se construit un peu en même temps, mais par couches successives.
C'est, bah, quelque part, si je peux faire une incise, c'est... L'an dernier, du coup, le spectacle qu'on avait monté s'appelait donc effectivement Lorenzaccio compose dramatique. Et en fait, même si on a enlevé ce terme-là du titre du spectacle, parce qu'on ne peut pas le remettre toujours, ça reste quand même quelque chose qui est en sous-titre. C'est-à-dire qu'avec Pauline, on travaille vraiment par strates.
C'est dans le dépliant.
On laisse
plus
cette chose-là.
Mais
parce
toujours
que
aussi tenace.
C'est, en fait, c'est notre démarche de travail au final, c'est ça. C'est faire du compost et du compost dramatique, ce qui était à la blague un jeu de mots sur le post-dramatique. Voilà. On parlait des gens tout nus tout à l'heure. Et du coup, voilà. Blague des bons. Et on accumule, en fait, les strates, etc. Et ensuite, ce qu'on présente, le mot n'est pas très beau, mais c'est une sorte de carotte de ce qu'on a accumulé, en fait. Et petit à petit, ces strates-là, elles vont se sédimenter les unes avec les autres. Et donc, ce qu'on présente, ça ressemble toujours à ça. Donc, même encore cette année, on fait encore et toujours du compost.
Donc, oui, pour terminer sur la question des lumières, c'est une création. Parce qu'on a proposé, en fait, à chaque fois, avec notre équipe technique, on a une part de demande, d'envie qu'on a. Et on a aussi une part, on leur laisse une part de création, de liberté et aussi de s'insérer dans le spectacle avec leurs envies, leurs désirs esthétiques. Et là, pour la création lumière, c'était typiquement un espace de création du régisseur et créateur lumière Quentin Chambaud, qui du coup a créé une lumière pour ce couronnement. Lumière qui est justement traduit à la fois l'isolement de Navarre, qui est tout seul dans une espèce d'espace rectangulaire, très blanc, et qui en même temps, les vêtements donc, en fond de scène sont éclairés contre le mur. À la fois, le mur est éclairé, j'avais jamais pensé, mais que ça fait aussi un peu référence aux fusillades, aux gens alignés contre les murs. Et du coup, les cadavres sont empilés, donc contre le mur, donc il y a ce Navarre tout seul et ses cadavres empilés, et il est entouré complètement de rouge, comme une espèce de vague rouge qui à la fois fait écho à la scène du début du spectacle du cortège de mariage avec audio, vidéo, disco quand le couple de mariés entre, et à la fois au fait qu'il n'y a pas de sang dans ce spectacle et que donc ce rouge est une espèce de point aveugle dans le, dans le spectacle.
Ça permet, cette lumière-là, elle vient aussi entourer les deux vrais cadavres, enfin vrais cadavres,
oui, c'est vrai,
joués par des comédiens, mais quand même, qui restent sur le plateau, qui sont le cadavre du moine qui vient de tuer Henri III et le cadavre d'Henri III. Et c'est aussi la première fois sur le plateau qu'on a des corps qui vont rester, en fait. Ouais. Et du coup, on souhaitait un petit peu
les atténuer,
voilà,
aussi,
atténuer un petit peu ce truc-là. Et du coup, la lumière de Quentin, elle est venue habillée, ça serait pas le bon mot parce que c'est pas
déshabillée. Non, je rigole.
Elle est venue, enfin en tout cas, voilà. Elle est venue ajouter à cette scène justement peut-être son étrangeté, effectivement, où effectivement on peut s'attendre à ce que, comme dans d'autres scènes du spectacle, des gens débarquent en faisant bravo, super, alors que pas du tout, quoi.
Ouais. Tout le monde est mort, donc il reste plus.
Il reste plus personne. C'est terrible.
Donc, comme Marie a parlé de sa scène préférée, la scène du baptême, moi, c'est bien sûr les installations vidéo qui m'ont beaucoup marquée, et pas seulement parce que Robin enregistre et que... Non, il ne me comprend pas parce qu'on a eu suffisamment de problèmes aujourd'hui. Donc, à la fois, les jeux entre le visuel des différents écrans, enfin, du coup, les grands écrans, le côté un peu jeu dont on tue des méchants ou des aliens, FPS, comme ça, enfin,
ouais.
Avec l'écran coupé, qui contrastait avec le côté... Enfin, ça avait une esthétique particulière, ce qui était projeté sur les petites télés, quand on voit Navarre dormir, enfin, on a l'impression qu'il est mort, puis en fait non, il dort. Enfin, un côté, moi, ça rappelait des peintures de peintres flamands, mais je ne sais pas trop pourquoi.
Ah oui, ça fait juste années 60, mais bon, quand on n'est pas historienne, ça paraît.
Moi, je suis très contente que ça te rappelle des peintures flamandes. Je suis ultra contente.
C'est vrai que les mains sur les oreilles de Margot,
ouais, c'est surtout cette séquence-là. Là,
et donc, dans les vidéos, un moment comme ça qui apparaît un peu de nulle part et qui fait un petit moment de. Qu'est-ce qui se passe? Donc Léa, qui fait le reporter de CNN, qui voit des cadavres et qui dit mais pourquoi on les tue? C'est des musulmans? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi des protestants? Pourquoi est-ce qu'on les tue? Et ça se finit, et tout d'un coup, une espèce d'appel au problème plutôt contemporain par rapport à la Sainte-Barthélemy, et qui casse complètement le rythme. Donc voilà.
Ou, oh my god, c'est... oh my god. C'est une séquence qui est d'abord écrite sans image, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrit le texte. C'est un des deux premiers textes qu'on a écrit au tout début de notre travail sur Massacre, donc les deux premiers, le premier
c'était Bad Boy,
séquence dansée, des années 50. Scriptée par Mélissa du coup, et proposée, imaginée par Mélissa, et ce texte-là, plutôt pas du tout imaginé visuellement, mais plutôt rêche et sec, juste qui était en fait, de quelque chose qui est sorti en fait sur une interrogation sur en fait aujourd'hui, qui est l'ennemi numéro un, qui sont les ennemis, peut-il vraiment exister un ennemi désigné, et l'anachronisme qu'il pouvait y avoir entre le terrorisme aujourd'hui, ou les meurtres de masse aujourd'hui, et l'anachronisme des protestants, du coup, le protestant n'étant pas considéré aujourd'hui comme l'ennemi numéro un par la puissance numéro un, à savoir les États-Unis. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de mixer une esthétique surmédiatique à travers donc justement un format façon BFM TV, CNN, à la fois ça et en même temps une esthétique de film d'horreur façon tournée caméra à l'épaule, façon rec. Mixer cette esthétique de images prises sur le vif avec en même temps l'anachronisme du massacre de la Saint-Barthélemy, voir comment les deux pouvaient s'entrechoquer. Et du coup, avec ce texte-là, qui est au final très court, sur en fait, c'est pas des musulmans, je comprends pas pourquoi on les tue. En fait, ça me faisait réfléchir à pourquoi on tue qui que ce soit et pour quel motif. Mmh. Et après, du coup, j'ai proposé ce texte qui est en fait assez troué et qui ne dit pas grand-chose de manière didactique, qui est, comme tu l'as dit, qui apparaît comme ça puis qui disparaît, quoi. Et Mélissa, du coup, m'a proposé tout un traitement vidéo et toute une séquence vidéo autour de ça. Et une séquence qu'on a réalisée, du coup, dans le parking de l'ENS.
Qui était lié effectivement à tous ces films tournés caméra à l'épaule avec cette espèce d'esthétique du film pas prévu. Enfin, tu disais Rec, je pense que le premier du genre, je parle sous le contrôle de Robin, effectivement, qui est quelque part dans un coin de cette pièce. Mais il y a aussi Projet Blair Witch, en fait, ouais, qui a un petit peu fondé un peu cette esthétique-là aussi. Il y avait ça, il y avait, comment dire ça, la réalité de ce que c'est qu'une prise de vue pas accidentelle, mais presque, en fait, dans les massacres, dans la vraie vie. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, étant équipé de téléphones portables, de smartphones, de tout ce qu'on veut, il nous est possible de filmer des massacres ou des actes violents réels, en temps réel. Et à l'époque où tu avais écrit ce texte, on avait déjà pas mal discuté, en fait, parce que c'était la période où il y avait deux personnes dans les rues de Londres qui étaient sorties armées de machettes et qui avaient dégommé, tué, tranché des gens à la machette, en fait. Et il y avait eu des images filmées par des gens qui étaient vraiment à 3 mètres de ces gens-là. Donc on se poser un petit peu la question de se dire qu'est-ce que c'est qu'une image réelle, qu'est-ce que c'est qu'une image mise en scène, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une image volée, qu'est-ce que c'est qu'une image aussi mise en scène pour la télévision, oui, pour l'actualité, etc. Donc du coup,
effectivement, mise en scène, puisqu'il y a les écrans qui sont sur scène.
Ouais, ça devient assez méta. C'est très très méta, mais du coup on s'était orienté vers ça, et puis c'est vrai qu'on avait, il faut être honnête, on avait aussi un petit peu envie que ce moment-là vienne être une sorte de respiration what the fuck, si je puis me permettre, dans le spectacle. C'est-à-dire que cet effet-là de surgissement absolument pas prévu de cette vidéo dans le spectacle, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment pour que ça vienne aussi soulager quelque chose du spectacle,
parce que l'image
et l'ouvrir sur autre chose aussi.
L'image ne fonctionne pas si elle n'est pas associée à Charles qui passe l'aspirateur. Parce que en fait il fallait un contrepoint absurde à cette violence là qui est en train de se déployer. C'est vraiment, en fait, je pense l'instant what the fuck est quand même un bon titre pour cette scène, parce que dire qu'il s'appelle Oh My God, et Oh My God c'est un peu what the fuck mais en poli. Et en fait non, mais c'est vrai, parce que du coup cette scène là c'est d'un coup quelque chose de très très brutal. Les seuls cadavres qu'on voit vraiment, c'est des cadavres en vidéo, enfin on les voit sur l'image, donc on se dit ok, d'accord, donc des gens sont morts. Et là en même temps il y a Charles IX qui a autorisé le massacre de la Saint-Barthélemy, qui fait
ça faisait aussi un petit peu écho à la façon dont on a de consommer de l'information sur les massacres de masse aujourd'hui, à savoir on peut être tout à fait en train de repasser et de voir une vidéo qui montre les massacres en Syrie, il n'y a pas de problème. Ouais, et du coup c'était quelque chose auquel on souhaitait, encore une fois pas de manière didactique, mais on souhaitait confronter le spectateur à cette situation là et que des fois effectivement on est chez soi et on se prépare du thé et on entend que 20 000 personnes ont été tuées, enfin c'est cette absurdité là aussi qui...
ça, et puis l'idée que Charles du coup est comme quelqu'un d'autre qui est assez bipolaire, et Charles, et que du coup ce qui nous intéressait c'est pas que c'était quelqu'un en souffrance, et comme par exemple dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, qu'on a bien regardé pour ensuite bien s'en éloigner, même si je le respecte beaucoup ce travail là, mais c'est pas notre esthétique, mais dans La Reine Margot Charles est quelqu'un de très souffrant tout le temps, il est très en souffrance, et tout ce qu'il fait il le fait en souffrant. Et du coup non, on voulait pas du tout aller dans cette image là on voulait aller dans l'idée de quelqu'un qui est très très joyeux, très très énergique, et puis d'un
peu
coup
à côté de la plaque
voilà, et qui d'un coup peut être en fait complètement
très
perdu,
versatile, en fait,
parce que, oui, très versatile, parce que du coup d'un coup on lui explique ce qu'il a fait, et du coup il se rend compte et il pleure. Enfin, il pleure pas vraiment, mais ouais, c'est un peu ça. Et du coup, cette image de passer l'aspirateur, c'est le mec qui s'imagine qu'il peut réparer le massacre en passant l'aspi, quoi.
Après, sur la question des autres vidéos, c'est vrai que tout ça fait un petit peu partie de ce contexte médiatique qu'on souhaitait mettre en valeur vraiment dans la pièce. Question que j'ai déjà évoquée d'effacement, de remplacement, d'oubli, en fait, aussi. D'oubli assez... de l'oubli à court terme qu'on peut avoir, même des événements frappants. La pièce de Marlowe aussi allait dans ce sens-là. Par exemple, quand Charles meurt, il est immédiatement remplacé par son frère, et ça se fait dans une réplique. Catherine dit « Oh mon Dieu, il est mort, son âme vient de quitter sa poitrine, il ne nous reste plus qu'à envoyer des ambassadeurs et ramener en joue son frère pour qu'il soit couronné. » Et c'était cette dynamique-là qu'on voulait mettre en valeur, et la vidéo nous a beaucoup aidé en fait à mettre ça en valeur. Donc il y a effectivement des vidéos qui sont très très médiatiques comme Oh My God, il y a de la vidéo en direct qui vient appuyer tout ce qui est allocution publique, etc., qui peuvent parfois se contredire, les allocutions publiques
entre elles se contredire. En direct, c'était filmé.
Certaines vidéos,
ouais. Je me demandais, est-ce que c'est...
Quand les gens font des discours...
Je me demandais s'ils répétaient, parce que du coup, l'œil du spectateur va entre le visage et l'image, et t'es jamais sûr si ils sont en train de répéter quelque chose.
En plus, c'est
quelque chose de décalage.
Exactement. Voilà. Des choses que je préfère au monde, c'est ça, léger décalage entre ce qu'on entend sortir de la bouche du comédien, vraiment, et le fait que ça ne correspond pas à son articulation à l'image. Mais par contre, c'était vraiment de la vidéo en direct. D'accord. Et du coup, c'était quelque chose qui nous importait aussi pour donner tout leur poids à ces allocutions-là, quoi, qui sont des allocutions publiques. Comment dire, elles dépendent beaucoup du regard caméra, de toutes ces choses-là, de toutes ces petites subtilités qu'on ne peut pas voir sur un plateau de théâtre. Nous, ça nous intéressait vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui est de l'adresse intime, qu'est-ce qui est de l'adresse publique, comment est-ce que l'adresse intime devient de l'adresse publique à certains moments donnés. Quand Charles demande à Coligny comment tu vas, Coligny, c'est une adresse publique qui est intime, mais qui est aussi une adresse pour rassurer tout le monde. Enfin, ces choses-là nous intéressaient beaucoup, en fait. Et les petites vidéos qui sont dans la télévision, qui ont effectivement une esthétique, très, d'une certaine manière, années 60 pour moi, en tout cas, et je pense que c'est sans doute pareil pour toi, Pauline, mais ces télévisions-là, c'est un espèce d'endroit qui vieillit pas, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est une télévision, ça sera toujours un média. Enfin, une télévision, une vieille télévision cathodique, carrée, ça fera toujours signe vers la télé, et donc les médias. Et donc, nous, ça nous intéressait de mettre des images intimes là-dedans pour essayer de donner un petit peu cette idée de la vie cachée des stars, quoi, la vie cachée des catholiques, des petits moments volés comme ça de ce qui se passe chez les catholiques pendant le massacre, mais qui sont de fait médiatisés.
Et j'ajoute juste, je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. C'est aussi que dans une scénographie qui est assez épurée quand même et qui est plus dans l'ordre de la suggestion que de l'ordre de la représentation, ça crée aussi un petit espace, cette télé, à la fois familiale. Donc des fois quand le passage où Guise et Catherine regardent le reportage sur le couronnement d'Anjou, ça crée tout d'un coup une micro unité spatiale qui du coup je sais pas comment dire mais rassure l'œil aussi sur ça crée un petit endroit, et en même temps c'est à la fois une télé publique aussi puisque ce reportage d'Anjou on peut l'entendre, tout le monde peut l'entendre, donc en fait c'est aussi pour montrer justement cette porosité entre quelque chose qui est familial, qui est privé et qui en même temps du coup est donné à tout le monde, donc ça va dans le sens de
puisque c'est aussi la télévision qui va permettre au duc de Guise d'apprendre que sa femme le trompe, peut-être.
Donc c'est à la fois complètement privé et complètement public, enfin effectivement il y a ce truc de la vie privée des stars, et du coup c'est on voit aussi
quelque chose qui nous intéressait vraiment de naviguer entre ce qui est vraiment de l'ordre du média, ce qui est de l'ordre de l'intime, et de voir comment ça se mélangeait. Et c'était aussi présent, aussi bizarre que ça puisse paraître, chez Marlowe. Il y avait des choses un peu en germe chez Marlowe de ça. Enfin, c'est pas quelque chose où on est arrivé, qu'on a plaqué sur ce texte-là. Il y avait dans le texte des choses qui incitaient à se poser la question de qui entend, qui parle, quoi, à quel moment, comment l'information circule, comment l'information du massacre circule, etc. Donc du coup, nous, on s'est encore une fois inséré dans ces petites pistes que nous donnait le texte, et puis on en a fait notre affaire.
Je vais laisser le mot de conclusion à ma seule chroniqueuse du jour, la seule, l'unique, la fidèle, absolue, jusqu'au dernier moment, n'est-ce pas Caroline ? Ça t'a plu ou ça t'a donné des envies de massacre ?
Les deux en même temps. Non, je rigole. Mis à part mes délires bipolaires dans mes chroniques, je suis parfaitement saine d'esprit.
Mais oui.
Du coup, effectivement, la scène du déshabillage qui retournait un peu, qui se rendait compte que on s'était bien amusé à lancer des vêtements, à faire semblant de tuer, à faire les « Allez, on y va, allez, on y va, on tue les gens, t'es prêt, ouais, je suis masqué et tout, oh, t'as une balafre, ouais, ça te donne un air un peu de guerrier et tout. » Et là, ça retournait complètement ce que disait le système de la douche écossaise. C'était drôle, et en même temps, à certains moments, on se disait « Mais peut-être qu'il faudrait pas rire, en fait, il y a des choses qui clochent, là, ça fait des échos contemporains. » Mais bon, on restait pris dans l'espèce de fièvre de tuer les gens qui emportent tout le monde jusqu'à ce que Catherine, elle tue tous ses fils. Enfin, à quoi ça sert je ne sais pas, mais bon, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait Henri de Navarre qui arrive sur le trône. Et c'était très rafraîchissant aussi de voir les codes du théâtre contemporain réutilisés, mais de façon sensée. Donc, un nu qui a du sens, un espace dépouillé qui a du sens, des images sur scène intermédiatiques qui ne sont pas juste là pour dire « Ah, regardez, on fait quelque chose d'un peu différent », mais vraiment une réflexion méta. Et aussi le quatrième mur, donc, qui est un peu cassé au début quand on vous voit apporter et enlever des choses, et on se dit « Mais est-ce qu'ils sont en retard ?» Non, c'est bon, ils le font exprès. Et la fin, bien sûr, où on s'amuse beaucoup à applaudir parce que les gens, ils bougent sur l'écran et tout, ils font la roue, ils nous font coucou. C'est vraiment sympa parce que, on aime bien applaudir à la fin d'un spectacle, mais au bout d'un moment, on a mal aux mains. Donc, il faut nous motiver. Et là, on était très, très motivés. C'était vraiment un bon moment.
Ouais, merci.
Merci à toutes les trois. Il est temps de refermer ce dernier en spectateur. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il y aura une dernière pièce jouée en Cantor début juin, Crime. Je vous invite à y aller. Moi, j'y serai, même sans radio. Je tiens à remercier tous les invités qui sont passés cette année dans notre exigu studio. Nos chers chroniqueurs pour leurs délicieuses chroniques, Lola, Caroline, Mathilde, Charlotte et Adrien cette année. En scène, parce qu'ils nous ont vraiment proposé, la plupart du temps, mais quand même très souvent, de très beaux spectacles. Robin et Nicolas, pour s'être occupés si souvent de la technique, domaine dans lequel, personnellement, je suis une brêle absolue. et ma chère acolyte Pauline, qui n'est pas là aujourd'hui et à qui je dédie cette émission. Cet été, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.